I'm not surprised, motherfuckers.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode du Guillotine Podcast numéro 121. Aujourd'hui on parle de PFL Paris, deuxième édition, hein. Nouveau gros event évidemment pour le PFL Europe, hein, édition Europe à Paris, à l'Accor Arena. Accor Arena qui, vous le savez tous, a été, les places ont été vendues en l'espace de 10-20 minutes, etc. Je ne suis pas là pour vous refaire tout la preview du combat entre Baki et Doumbé, hein, Baïsangour Shamsoudinov face à Cédric Doumbé, puis aussi évidemment Abdul Abdouraghimov face à Grant l'anglais. On va analyser ces deux combats-là, le co-main et le main event. Encore une fois, je ne vais absolument pas me concentrer sur l'extra sportif. Je pense que vous en avez tous assez entendu sur les réseaux. Je vais me permettre deux, trois petites remarques en passant par l'analyse. Mais évidemment, j'enregistre ce podcast directement après les combats. Je n'ai pas forcément de notes. J'ai regardé ça vraiment d'un œil très aguerri, hein. J'ai regardé les deux combats, mais je ne les ai regardés qu'une seule fois. Je n'ai pas pris de notes, donc je vais plus y aller au feeling. Ça reste tout frais, hein. On est encore tout chaud, tout frais, tout chaud. Vous le prenez comme vous voulez. Et on commence direct avec le combat de Abdul. Alors Abdul, j'en ai parlé vite fait dans le dernier podcast consacré à One Championship avec l'ami Julien Cazier de chez Gracie Barra, et puis on se parlait un petit peu aussi de ce combat, hein, de Abdul qui était à venir et qui était un petit peu dans l'ombre au final forcément de Baki face à Doumbé, hein, puisque Doumbé prend énormément de place. Ça j'en parlerai un petit peu par la suite aussi, et puis le combattant qui avait été donné à Abdul ne m'était pas connu, hein, et puis sa fiche ne m'inspirait guère confiance quant à la compétitivité de ce combat là Eh bien, figurez-vous que j'ai vraiment eu tort. J'ai vraiment eu tort. Et puis, je m'excuse personnellement auprès de Grant, qui ne m'écoutera bien sûr évidemment pas. Mais je m'excuse quand même, c'est la moindre des choses. Parce que j'ai douté de lui, parce que je ne le connaissais pas et parce que je me suis dit, bon, bah, c'est Abdul, va lui rouler dessus. Mais comme disait Abdul en post-fight interview, c'était une vraie ceinture noire. Et il a su vraiment se défendre de son dos et du dessus. Et ça, j'ai beaucoup aimé, en fait, la défense active de l'anglais. Et vraiment, vraiment, il a mis Abdul, j'irai pas dire jusqu'en galère, ça serait un grand mot, mais il a été très compétitif face à Abdul. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé l'intention de l'anglais. Les sprawls étaient bons, vraiment, vraiment bons. Et le fait que Abdul aille chercher quelques attaques, quelques tentatives de soumission vraiment compliquées, je trouve que ça ne l'a pas aidé sur son combat. Parce qu'en face, évidemment, comme Abdul l'a très bien dit, c'était une vraie ceinture noire. Et pour soumettre une vraie ceinture noire, un gars qui n'a jamais été soumis en MMA, d'ailleurs, pro, du moins, le Britannique, bah, c'est compliqué. Hein, c'est vraiment compliqué. Abdul a tenu, à mon goût, des guillotines qui n'étaient pas vraiment finissables. Encore une fois, face à ce combattant-là. Même si c'est tight, même si vous avez la bonne position, même si vous arrivez à mettre, aller chercher, récupérer votre garde fermée pour pouvoir mieux squeezer derrière, ça a été compliqué pour Abdul quand même. Hein. Même à un moment donné, je trouve qu'il s'est retrouvé très longtemps contre la grille au premier round pendant de longues minutes, 2-3 hein, minutes. Abdul a su se relever en fin de round et passer un takedown direct dans la foulée. Alors ça, l'action-réaction, ça m'a beaucoup plu de la part du Lazy King. Grant s'est directement fait attaquer au cou et il y a une tentative de Japanese necktie, hein, la cravate japonaise de Abdul Abdouraghimov. Alors ça, les spécialistes ont beaucoup aimé sur Twitter. Mais Grant a bien géré. Encore une fois, il était bien attaqué, mais il faut l'angle parfait quand vous attaquez à quelqu'un comme ça et que dès qu'il commence à aller chercher, à se libérer un petit peu d'espace, hein, pour libérer un peu de pression et un peu plus chiller, si je peux me permettre l'expression, parce que bon, quand vous êtes dans les mains d'Abdul, je pense pas que c'est chill, mais il a bien géré. Il a bien géré le premier round et le premier round était vraiment fun. Et puis moi, j'ai été épaté, étonné et puis vraiment bien surpris de la part du niveau de l'anglais. Dans le deuxième round, Abdul, je trouve qu'il n'a pas bien timé son premier takedown. Et quand je dis ça, c'est vraiment parce que j'attends du très, très, très haut niveau de la part du Lazy King. Alors, C'est sûr que le deuxième takedown, il l'a mieux timé parce que, bon, côté striking, je vous avoue que le Britannique n'était pas vraiment là. Quelques jabs timides, mais bon, à chaque fois, c'est très léger au niveau du volume. Et quand c'est lancé, c'est pour des intentions différentes que de faire mal à son adversaire en striking. C'est vraiment pour essayer de compléter son jeu en MMA dans ses déplacements, etc. Donc, c'est vraiment du remplissage, j'ai un peu envie de dire, pour pouvoir aller, pour pouvoir aller lutter, pour pouvoir aller grappler, pour pouvoir aller se battre au sol, tout simplement. C'est vrai que dans le premier round, d'ailleurs, Grant a mis plus de ground and pound et Abdul a un petit peu saigné, etc. Enfin, je vous dis, Abdul n'a pas été en difficulté à proprement parler parce que je pense pas qu'il se soit senti vraiment en danger, parce qu'il a réussi à s'en sortir et parce qu'il a réussi à se relever, notamment. Mais Abdul a bien géré les poussées de Grant. Le fight a vraiment livré. Hein. Les scrambles au sol étaient très beaux. Les deux ont voulu se chasser le dos à un moment donné. C'était vraiment, vraiment bon. Abdul va continuer d'attaquer, mais Grant va être vraiment difficile à finir. Hein. On est dans le deuxième round. Et je trouve que Abdul, encore une fois, dans le deuxième round, chill un petit peu trop sur son dos. Et heureusement, son très, très, très bon corner vraiment lui hurle dessus de genre « Bro, faut te relever, man ». Tu veux être au-dessus. Tu veux être au-dessus parce que c'est un combat qui va complètement aller tout du long au sol, hein, sur trois rounds. Et bah, écoutez, une split decision, etc., ça peut vite arriver. D'ailleurs, le combat a été remporté par Abdul à la split decision. Un scorage un peu plus foireux aurait pu passer du côté de l'anglais, hein, clairement. Donc petit avertissement pour Abdul au niveau du comportement, j'ai envie de dire, dans son MMA, au niveau de son gameplay et le fait qu'il soit un peu trop chill. Bon, on ne l'appelle pas le lazy king pour rien non plus, hein. Il a des petits moments lazy peut-être à un moment donné, mais écoutez, vraiment, moi c'est le moment où j'avais envie de dire pareil aussi, relève-toi, mais son corner l'a très bien corrigé. Puis bon, Abdul aussi est rentré avec une espèce de galipette à un moment, dans, je ne sais plus dans quel round c'était, c'était pas fou. Quand Abdul a réussi à prendre le dessus à un moment donné, parce qu'il y a eu encore une chasse au dos à un moment donné, c'était chaud. C'est parce qu'on a essayé de se prendre le dos l'un l'autre, mais encore une fois, les deux sont très bons en défense, donc aller chercher les deux crochets là, vraiment même un seul, et puis avec un seat belt, c'est très très compliqué face à des vraies ceintures noires, et les deux ont su très bien se défendre à ce niveau là. À un moment donné, bon, Abdul réussira à prendre le top à la moitié du round, cherche le coup, hein, il trouve le bon grip, hein, il va chercher un espèce de dars pour peut-être aller chercher un anaconda choke derrière, mais bon, pour finir un dars à ce niveau-là, il vous faut un angle parfait. Et puis l'anglais défend bien. Hein, Grant reste actif en défense. Encore une fois, le coin d'Abdul lui demande de garder la position. On est dans le troisième. Il faut rester au-dessus, garder le positionnel parce qu'il n'y aura pas énormément de damage peut-être dans ce troisième. Donc, autant garder le positionnel, travailler, faire des attaques de soumission, etc. Et ça, Abdul a réussi à rester discipliné dans le troisième. Voilà ce qui lui vaudra peut-être la victoire à la fin. Hein. Il me semble que il y a eu des scorecards un peu tendus dans tous les sens. Hein. Il y a eu un 30-27 pour Abdul, il me semble. Alors ça, genre donner le premier round à Abdul, je suis pas sûr, vraiment. Moi, j'aurais donné peut-être 29-28 à Abdul. Mais écoutez, il y a un arbitre qui a donné 30-27. Il y a un non-arbitre qui a donné 29-28, il me semble, à Grant. Donc, c'était pas facile. Pas facile pour le Lazy King, mais encore une fois, je l'avais dit sur Twitter, je pense qu'il a pas fait le fight parfait. Aussi parce qu'il a voulu beaucoup tenter et il a voulu plaire au public. Et puis son adversaire, lui, est venu pour danser, hein, est venu pour se défendre, est venu pour aller chercher la victoire et pas se laisser faire. Franchement, c'était cool à voir comme combat. Vraiment pas facile pour Abdul, non, vraiment. Mais pour les yeux, pour les fans, pour les amateurs de grappling, moi, j'ai vraiment kiffé parce qu'il y a eu des bons scrambles. Hein. Comme je vous dis, la double chasse au dos, c'était vraiment le fun à regarder. Bravo aux deux, c'était cool. Puis bon, son post-fight interview était rigolo à Abdurakhimov. Et encore une fois, je vais revenir sur cette conversation que j'avais eue avec l'ami Julien Cazier. C'est un peu bête. C'est un peu bête quand même d'avoir Abdul sur la même carte que Baki et Doumbé. Enfin, surtout que Doumbé, hein, bien sûr. Parce qu'il est dans l'ombre et que Abdul mérite d'être un peu plus au-dessus. Alors, comme le disait bien Clément Marco, il me semble, dans un live où il l'a dit plusieurs fois, c'est que financièrement parlant, le PFL a très bien mis Abdul. Très, très bien mis. Enfin, voilà, il a insisté là-dessus. Donc, ça, c'est cool, hein, parce que, bon, même s'il est jeune encore, il me semble, il a 27, 28 ans, il a encore le temps de faire beaucoup d'argent. Mais si tu peux te permettre de mettre quelques centaines de mille de côté avant tes 30 ans, C'est quand même cool, quoi. C'est quand même cool. Donc, il a raison. Après, quel est le plan sur le long terme? Moi, je vous l'ai dit sur Twitter, j'ai un match-up de rêve pour Abdullah Gouragimov. Malheureusement, je ne pense pas que ce sera dans le PFL Europe. Je le garde pour moi. J'attends que la news sorte pour pouvoir vous faire part de mon fantasme. Mais j'aurais bien aimé voir Abdul dans le tournoi régulier, dans le PFL Regular Season, comme disiz les anglophones, c'est le vrai nom. Donc, à savoir le tournoi que Olivier Aubert-Marcy a gagné 2 ans de suite là, aux États-Unis, avec la saison, avec les poules et les quarts de finale, etc., etc. Ça, j'aurais bien voulu voir Abdul aller chercher un million là-dedans, quoi. Ça, c'était un petit peu pas mon rêve, mais ça aurait été mon kiff de voir Abdul rentrer là-dedans. Et puis, je le vois avec PFL Europe. Et puis maintenant, il est dans l'ombre de Doumbé. Sur le côté sportif, évidemment, ça me gêne un peu parce que Abdul, je pense qu'il a beaucoup de choses à montrer encore. Et il va les montrer. Donc la suite, vite la suite. Et bravo à Grant qui est venu faire un vrai combat. Et l'on peut passer au main event directement. Ce sera un podcast assez court. Je vous le dis, je suis à chaud là. J'ai regardé les combats, mais j'avais envie de se faire un petit podcast là. Ça me fait plaisir. Et j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Baki Doumbé, Baki Doumbé, Baki Doumbé. Alors, encore une fois, je veux pas vraiment me concentrer sur le walkout, etc., le walkout song, enfin bref, toute la pre-fight, le face-à-face, les vidéos de Doumbé, vous avez tous vu. Et puis, Doumbé, c'est un bon communicant. Le mec, il a fait sa propre marque en MMA. Hein. Bon, sa marque, il était drôle, etc., on va en kickboxing, mais on va être honnête. Hein. C'est sûr que la portée de l'audience pour Glory est complètement différente quand tu rentres dans le monde du MMA, hein. Même dans des plus petites organisations, etc. Bon, le mec, il a réussi à faire parler de lui petit à petit. Il s'est super bien construit, quoi. C'est un communicant de fou, Doumbé. Alors ça, je ne lui enlève absolument pas ça. Il sait très bien gérer sa propre image. Il a un bon humour. Il sait pousser les blagues jusqu'où il faut. Il va pas trop loin. Il va pas aller chercher des trucs sales. Moi, je trouve ça cool. Après, je suis pas forcément l'audience cible, hein, pour ce genre de trucs, mais je vais pas faire le vieil aigri, encore une fois, qui crie au nuage, ça n'est pas moi, ça l'est des fois. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Voilà, soyons honnêtes. Donc, je veux absolument pas cracher là-dessus, hein. Pas du tout ça, pas du tout ça. Mais est-ce que Doumbé est en train de devenir plus gros que PFL? Bon, ça, je me le demande. Est-ce que ça peut être bénéfice, est-ce que ça peut être un bénéfice pour le PFL sur le long terme? Alors, moi, je me suis dit, genre, PFL se gave, hein, signer Doumbé, c'est clair, c'est du pain béni pour eux, ça fait de la grosse com. Doumbé se market tout seul et Doumbé market le PFL par défaut, indirectement. Donc, c'est sûr, c'est des points de gagné pour PFL. Mais après, sur le long terme, je vous le dis, hein, je ne suis pas sûr parce que je suis incapable. Ah, si, il y a Ibrahima Mané, mais sinon, je suis incapable de citer un nom de combattants en dehors du co-main et du main, à part Ibrahima Mané, il me semble. Ah oui, et puis le Belge là, qui est oui, comment il s'appelle, Patrick Aïrbora, je suis désolé si je massacre son nom, mais voilà. Sinon, ça aussi c'est une belle signature pour PFL. Bien joué, franchement bien joué, parce que ça aussi c'est bien vu pour la Belgique, hein, tu sais, il faut essayer d'étendre son public cible et puis de les toucher de la façon la plus smart possible. Et ça, PFL le fait bien à date. Et puis d'avoir été chercher Baki pour Doumbé, franchement, je trouve ça cool parce que bon, il reste un peu sur la même dynamique qu'avec Zebo, gros lutteur qui est capable d'amener les gens au sol. Bon, après, Zebo, c'est un gars moderne, hein. On sait qu'il a commencé le MMA direct au complet, mais il me semble. Enfin voilà, il a des très bons takedowns, etc. Et puis Baki, lui, c'est un ancien judoka. Il a commencé avec le judo. Et puis bon, il est bon en grappling. Ça ne veut pas dire que c'est un finissant au sol, hein, qu'il est très bon en jiu. Loin de là, vous m'avez déjà entendu pester contre les lutteurs qui n'arrivent pas à finir leurs adversaires au sol. Mais ce match-up faisait du sens pour moi parce que au niveau de la difficulté, Zebo, c'était quand même un sacré morceau pour, il me semble, Doumbé, pour un gars qui a un background de kickboxing à 100% et qui n'a pas forcément de lutte et qui a appris la lutte et le grappling dans les dernières années. Alors, certes, si tu es doué, que tu peux apprendre vite, etc., mais au stick, ça en fait des entraînements, man, hein, franchement, il faut s'entraîner à tous les jours, etc. Il y a du retard à rattraper. Donc, pour ça, je pense que le match-up contre Zebo était déjà une étape au-dessus. Bon, on sait ce qui s'est passé. Et là, on lui met Baki, on lui remet un jeune, un bon lutteur, plein d'espoir, invaincu avec plus de combats que Zebo, mais on est un peu dans le même historique, dans le même narratif. Et ce combat me plaisait clairement, et ce combat m'a plu. M'a plu parce que j'ai été stressé pendant 2 rounds, hein, et le troisième aussi, évidemment. Vraiment, c'était bon parce que on a eu de l'échange et on a eu deux gars qui sont allés, on a eu deux gars qui ont pris des risques. Hein, Doumbé, les risques qu'il a pris, c'est d'envoyer des kicks. Et dans l'autre sens, Baki, le risque qu'il a pris d'aller chercher un low kick, c'est très dangereux, hein, parce que vous savez bien que les kickboxers, ils envoient des low kicks, ils envoient des low kicks, et quand ça monte, ça va pleine tête et ça peut ne pas pardonner. En Muay Thai, on vous le dit souvent, enfin on vous le dit souvent, on vous le dit tout le temps, ne va jamais catcher un low kick. Alors là, je sais, on est en MMA, mais encore une fois, tu sais, ça peut être une technique de vraiment de kickboxer. C'est genre on descend, on frappe en bas, on frappe en bas, on frappe en bas, on est dans les niveaux du bas et d'un coup on monte. Et quand je voyais genre Baki aller chercher la première fois ce low kick, vraiment j'ai eu peur que sur les prochains rounds, eh ben Baki s'en prenne un plein de tempes avec le tibia de Doumbé, puis se fasse défoncer, que ça se termine. Et puis là c'était pareil, hein, genre là ça aurait été pour le coup, ça aurait été Baki t'es mort, Baki t'es dodo, Baki hôpital, Baki ambulance, Baki chambre d'hôpital, Baki terminé. Mais Baki a un body lock des enfers, les amis. Ça a l'air d'être une plaie pas possible. Et moi, j'ai beaucoup aimé le fait que Baki, quand il voyait Cédric se relever, parce qu'il l'a, Cédric s'est relevé plusieurs fois. Et ça a été impressionnant, surtout sur la première séquence où Doumbé travaille très fort son papillon. Alors, pour les gens qui sont pas trop techniques, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes au-dessus de son adversaire, vous n'avez pas envie d'être dans son papillon. Le papillon, c'est d'avoir les deux crochets. Donc, les deux crochets, votre crochet, c'est la cheville. À l'intérieur de vos jambes pour pouvoir, genre, faire justement utiliser ces espèces de crochets et puis vous propulser vers le haut, hein, vous élever vers le haut. Et puis, quand vous avez plus les appuis de vos deux jambes et que vous avez plus que vos deux mains qui touchent le mat, ça devient très dangereux. Ça devient très dangereux parce que vous pouvez vous faire renverser, et puis etc., etc. Et donc, en gros, il faut la règle au sol, c'est d'essayer de garder toujours 3 points d'ancrage pour pouvoir un bon équilibre. On enchaîne, on arrête avec ce côté technique et puis on revient dans le combat. Pardon, excusez-moi pour ce petit gris-gris. J'ai trouvé ça bien de Doumbé. Puis je suis genre, ok, ouais, il a des bonnes bases, etc. Mais quand vous avez un gars qui est puissant, fort au-dessus, il peut vous le smasher, votre papillon. Et aussi, quand il se relève, Doumbé, ben, Baki est parti directement à la chasse pour aller grappler, vraiment essayer de le coller, etc. Et sur les séquences où Cédric était debout, son stance était insupportable. Quand je vous dis insupportable, c'est que vraiment, il a sa tête en avant et les mains basses, parce qu'il avait les mains basses, parce qu'il doit défendre le takedown de Baki, évidemment. Mais Baki peut pas non plus trop aller striker. Il envoyait des jabs timides de temps en temps. Il a peut-être envoyé un ou deux overhand. Mais aucune combinaison en 1-2, aucune combinaison en 1-2-3 pour Baki. Et il a raison. Parce que Doumbé, ce qu'il faisait vraiment là, c'était genre, limite, il montrait un petit peu son menton en espérant aller chercher un gros counter avec sa main droite. Hein, il l'a connecté plusieurs fois d'ailleurs. Mais Baki a une bonne tête. Et bon, après, le head movement de Baki, c'est pas encore ça. Mais c'est pas sa game. Mais je pense qu'il a pas mal appris de ce combat. On a que 2 rounds, mais il a pas mal appris de ce combat. Il a gardé la tête haute et il a gardé beaucoup de discipline pendant 2 rounds. Les moments où il était un peu collé contre la cage, c'était un peu la panique à certains moments. Parce que bon, comme je dis, il s'est fait connecter. Mais aussi, genre, il essayait de circuler. Mais je pense que il a des progrès à faire sur justement comment sortir du bon côté et pas de la main violente, à savoir la main arrière. Puis mieux se déplacer latéralement, faire attention sur tes pas, etc. Après, je dis pas que c'était vraiment mal fait, hein. Je dis juste que ça peut être perfectionné pour Baki. Maintenant, Doumbé, comme je vous le dis, on l'a vu faire 2-3 Granby Roll, etc. On voit qu'il a travaillé sa lutte, hein. Il a montré clairement l'arsenal qu'il a appris pendant son camp, mais comme je vous le dis, hein, c'est pas quelque chose qui va forcément s'apprendre en 3 ans. Enfin, je vous dis, vous pouvez l'apprendre en 3 ans, mais rattraper le niveau des autres en 3 ans, c'est très, très, très compliqué, surtout face à un kid comme Baki, qui a fait ça depuis son enfance, du grappling. Enfin, lui qui est vraiment habitué à être proche des gens et à savoir bien positionner ses mains, etc. Que ce soit contre la cage ou que ce soit au centre de la cage. Et c'était bien. Et c'était bien. Tout simplement, c'était bien. Mais bon, il y a eu ce troisième round et cette espèce de grosse blague comme pas possible. J'en viens pas que ça s'est terminé là-dessus, quoi. C'est vraiment très frustrant parce que c'était un fight compétitif. On arrivait dans le troisième, ça aurait pu être un des deux côtés, j'ai l'impression. J'ai pas envie de me faire un avis définitif sur les scorings fictifs. Entre les deux, on les trouvera en ligne, vous les trouverez en ligne, on les verra en ligne, on en reparlera en ligne. Mais je dirais un 1, peut-être. Je dirais un, quelque chose. En tout cas, les deux rentraient clairement dans le troisième en tête que je ne sais pas si j'ai gagné. Et pareil pour Doumbé, pareil pour Baki. C'est la même chose. Je ne sais pas si j'ai gagné. Qu'est-ce que je fais? J'y vais. Et on a eu vraiment un troisième acte clownesque, clairement, où il y a une grosse incompréhension, mais des fois t'as rejeté plus de certains côtés que d'autres, quoi. Genre, je vais pas forcément me faire des amis en disant ça, mais pouce, ça n'existe pas. Hein, c'est l'arbitre qui décide s'il y a pouce ou pas hein, dans le combat. Donc pouce, c'est un high poke, c'est un coup en bas de la ceinture, c'est un arrêt du combat. Voilà, j'essaie de réfléchir à d'autres, mais au UFC, hein, dans les Unified MMA Rules. Non, on est chez PFL, qu'est-ce que je raconte, ouais, excusez-moi, je suis sous le coup de l'émotion, encore une fois, encore un peu. Mais ouais, genre, je vois pas qu'est-ce que ça peut être d'autre, quoi. Ah, ou alors le jeter de la serviette, quoi. Et c'est pareil, le combat est arrêté. Donc, que, tu sais, je vois pas alors. Je vois pas pourquoi Doumbé aurait pu croire que le combat s'arrête alors que Godard lui disait continue, continue. Bon, après, Godard a un petit peu dégainé le ça va trop vite, mais tu peux pas arrêter le combat pour un oui ou pour un non. Comme je vous dis, t'arrêtes le combat à époque, coup bas, où le combat est terminé, ou alors c'est la fin du round. Ou alors l'électricité s'arrête, ou j'en sais rien, mais pas une écharde dans le pied, quoi. Pas une écharde dans le pied. Après, je peux comprendre, ça peut le gêner, ça doit être chiant. Après, je peux comprendre, il croit, genre, ah, Baki, est-ce qu'on fait pouce? Oui, pouce, ok, c'est cool. Tu fais pouce au gym, gars, tu fais pas pouce, genre, au troisième round du combat le plus attendu en France au premier trimestre 2024. Non, 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 ça c'est pas possible. C'est pas possible parce que. C'est pour toute la raison que je vous ai expliqué. Je suis désolé, je suis pas à bout, hein. Je suis juste déçu, comme tout le monde. Vraiment, on nous avait donné un vrai combat et puis au troisième, on se fait voler, ça fait chier, quoi. Vraiment, ça fait chier. Évidemment, Doumbé en rigole, je fais genre, non, mais. Soyez pas méchant avec Baki, dites-lui rien et tout, c'est l'arbitre qu'il faut pourrir. Non, mais je rigole. Ouais, tu rigoles, mais tu crois que la moitié de ton fanbase a le QI de Albert Einstein, man, et qu'ils vont comprendre. Voilà, hein, une balle perdue pour la moitié des fans de Cédric Doumbé. Et encore une fois, hein, comme je vous le dis, genre, j'ai absolument rien contre Cédric, comme je vous l'ai dit au début. C'est quelqu'un que j'admire pour son palmarès en kickboxing et puis qui a su se construire. Donc ne me jetez pas la première pierre, quoi. Moi, je vous jette une pierre pour avoir, comme le dit, comment il s'appelle, le gars qui est le fan de Morgan Chapa, là, Adil, quelque chose comme ça sur Twitter. Je l'ai retweeté et puis il dit genre, c'est quoi ce public avec tous leurs téléphones et tout, plutôt que... Ouais, c'est vrai. Là, par exemple, ça montre un petit point négatif de ce type d'audience, j'ai envie de dire, qui participe aux événements, qui participe au débat, hein, le débat étant un grand mot, en ligne sur le combat. C'est ce genre de là, man. C'est les gars qui sont là pour les réseaux, c'est les gars qui aiment la hype, c'est les gars qui aiment les clips, c'est les gars qui aiment les punchlines, c'est les gars qui aiment le trash talk. Mais est-ce qu'ils aiment bien voir un renversement par papillon, blablabla? Ouais, pas vraiment, non, c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est prendre un petit morceau du moment plaisant et puis en faire tout un pataquès sur les réseaux. Alors que le moment présent était fou, moi, je vous le dis, j'étais stressé, j'avais les mains moites. J'étais pas bien et ça me fait plaisir d'être dans ce fucking état-là parce que c'est ça la passion. Moi, je vous le dis tout le temps, je suis un hostide romantique hein, du MMA, je suis un hostide romantique de la bagarre, de la violence poétique. Vous le savez, j'aime ça. Et me mettre dans un état comme ça, suivre le combat, être stressé, me dire qu'est-ce qui va arriver, est-ce que Baki va se faire knock-out ou alors est-ce que Doumbé va se faire prendre plusieurs fois, encore une fois, sur des takedowns dans le troisième et Baki va essayer de chercher du ground and pound et s'énerver. Tout ça, là, tout ça, ça me montait dans le cœur, ça me montait dans l'âme et j'étais dedans et ça me fait chier ce troisième round. Ce n'est pas la faute à Marc Godard, c'est la faute un peu à tout le monde, mais vous savez de qui je veux parler, quoi. Les chardes, c'est non. Le bout de verre, c'est clair, ça doit être gênant, mais... Et c'est pas juste, hein. C'est pas juste que tu te prennes le doigt de pied dans une écharde alors que tu montes sur le mat d'un des combats les plus importants de l'année en France, si ce n'est le combat le plus important de l'année, peut-être. Who knows? C'est pas juste, c'est pas normal, ça devrait pas arriver. Mais, vu ton discours de bonhomme, vu ton discours de je les envoie à l'ambulance, tu dors, etc., bah, moi je m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça, quoi. Tu m'excuseras, mais je m'attendais pas de toi que ça se termine comme ça, gars. Normal. C'est normal. Après toutes ces paroles, après tout ça, là, c'est normal. Donc, grosse déception, fait chier, merde, caca. Voilà. C'est sur ces magnifiques mots qu'on va bientôt se quitter, je pense. Hein, je pense que la revanche ferait du sens, mais encore une fois, Baki... excusez-moi, il a pris le risque d'aller se battre contre Doumbé. Il sort de chez Arès pour aller faire un one-off chez PFL. Bon, après, il y a peut-être des histoires de petits billets qui tournent hein, dans l'équipe aussi. Mais comme le disait Baki, je suis pas sûr qu'il ait pris tant d'argent que ça. Hein. Franchement, il le disait genre, ah non, mais oui, je le fais, mais pour 1 million. Donc oui, c'est beaucoup, certes, hein, surtout pour un gars de 22 ans qui a combattu uniquement chez Arès. Mais ouais, moi, genre, je suis pas contre voir ce combat, mais c'est clair, Baki, il a fait ce qu'il fallait. Il a fait le combat qu'il fallait, et comme je vous le dis, il a appris. Et pourquoi il re-retournerait contre Doumbé, reprendre ce risque? Enfin, je sais pas. Je sais pas si je reveux ce combat, mais ça me gênerait pas. Ça me gênerait pas, parce que si c'est aussi compétitif, aussi stressant, et que les passions se déchaînent, oui. Mais j'ai envie de voir aussi Baki évoluer, tu sais, et puis peut-être d'aller ailleurs, etc., ou enfin d'aller chercher sa putain de ceinture chez Arès. C'est tentant de voir Baki évoluer, mais c'est aussi tentant de revoir ce combat. Évidemment, Doumbé, lui, il est dans l'optique de Superfight uniquement, quoi, hein, je veux dire. Lui, son but, je pense, c'est de gagner 2-3 combats et puis d'aller chercher direct le champion pour 1 million ou une connerie comme ça, tu sais. Je le vois pas faire autre chose, quoi. Vraiment pas. Je pense qu'il s'en calisse d'aller chercher le regular season chez les Welter, chez PFL. Mais, moi, en tant que fan technique, évidemment, du sport, bah, j'aimerais bien voir Cédric dans le tournoi Welterweight aux States, quoi. Normal. Après, est-ce que c'est ce que Doumbé veut? Je pense pas. Et à 100%, il a raison de pas faire ça. Qu'il se fasse kiffer. Il a déjà gagné des titres chez Glory. Il a déjà combattu des monstres chez Glory. Il a un beau palmarès. C'est un des plus grands kickboxers d'Europe ou puis d'Afrique. Donc, j'ai envie de vous dire... Il fait ce qu'il veut, et puis il peut se permettre de faire ce qu'il veut, parce qu'il a l'audience derrière lui, il a grossi petit à petit, et il continue de faire marcher sa marque, et Doumbé a beaucoup travaillé sa lutte défensive, donc ça c'est cool, et puis on a pu le voir, donc ça c'est cool, mais moi j'ai beaucoup aimé la discipline de Baki, je vais pas vous mentir là-dessus, et j'ai beaucoup aimé avoir peur dans les deux sens. Merci pour l'écoute de ce podcast, et restez des romantiques si vous en êtes des vrais. Vive la violence poétique, vive la MMA, vive la bagarre et abonnez-vous, motherfuckers! At the end of the day, it is what it is.